Bienvenue au podcast des questions d'Alexis, espace où l'on discute de la place qu'occupe le marché du carbone dans l'atteinte des cibles climatiques. Je suis votre animatrice, Alexis, et aujourd'hui, on démêle les différents volets des marchés du carbone en creusant dans la mission et dans le fonctionnement des marchés volontaires. Pour répondre à mes questions, je serai en compagnie de Martin Clermont, PDG de l'entreprise Les Solutions Wheel et expert en la matière, qui nous suit tout au long de notre série. Bonne écoute! Donc, Martin, bonjour!
Bonjour, Alexis!
Bienvenue à notre premier épisode de cette série de podcasts.
Merci.
Les émissions de gaz à effet de serre sont dans le plafond. Tout le monde ou presque s'entend pour dire qu'on doit tout faire à notre pouvoir pour mitiger les conséquences des changements climatiques. Parmi ce qu'on peut faire, on peut réduire nos émissions, on peut séquestrer du carbone, puis on peut aussi compenser nos émissions. C'est là où le marché du carbone apporte une dimension vraiment intéressante aux pistes de solutions à adopter. Mais souvent, le marché du carbone, on n'est pas trop à l'aise avec, on ne comprend pas exactement ce que c'est, on trouve que c'est abstrait. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la lumière sur le concept pour qu'il devienne notre allié dans cette lutte au changement climatique. Puis là, d'abord, Martin, j'aimerais savoir, c'est quoi exactement un crédit de carbone?
Alors, si je le fais très simple, un crédit de carbone, c'est une réduction de une tonne de gaz à effet de serre sur une année. Et ça peut être également une séquestration par une plantation d'arbres d'une tonne de gaz à effet de serre calculée sur une année. Quand c'est vérifié, cela donne un crédit carbone.
Parfait. Puis, donc, ça représente une tonne métrique de CO2 équivalent. Mais à titre de repère, ça ressemble à quoi en termes d'activité humaine? Disons que je prends ma voiture, sur combien de kilomètres je vais émettre une tonne de CO2?
Dépendant du véhicule, mettons, c'est un petit Yaris, alors sous-compact, encore à l'essence, 5000 km, tu vas dégager une tonne de gaz à effet de serre, alors par l'utilisation sur une année.
OK. Puis, dans le fond, les émissions engendrées par mon trajet de voiture, et je vais pouvoir les compenser en achetant des crédits sur le marché volontaire du carbone. Mais le marché volontaire, comment ça fonctionne?
Oui, alors on parle beaucoup de compenser ces émissions de GES. Moi, j'aime bien dire on peut contribuer aux efforts climatiques. Alors, c'est quoi les marchés volontaires du carbone? Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont réglementés, il y en a qui sont volontaires. Pour notre part, nous, on est dans notre projet Communauté durable, on est actif dans les marchés volontaires. Essentiellement, les marchés du carbone, je vais parler du volontaire, les marchés volontaires du carbone, d'un côté, c'est des efforts de réduction ou de séquestration qui sont faits, réalisés au-delà des obligations réglementaires. Et de l'autre côté, des acheteurs vont acheter ces crédits de carbone-là sans aucune obligation réglementaire. Alors, on est dans un espace volontaire. L'action est volontaire et la compensation ou la contribution d'achat, elle est volontaire. Alors, on est dans un espace volontaire. Il existe aussi des crédits de carbone dans les marchés réglementés, mais ça, c'est organisé sous la supervision d'un gouvernement qui va régler les règles du jeu.
Justement, on entend souvent parler de la bourse du carbone, de la taxe carbone, de la Western Climate Initiative, mais même moi, j'ai de la difficulté à faire la distinction entre tous ces termes-là. Je ne sais pas si tu peux nous éclairer, surtout sur la distinction entre la tarification et la monétisation des émissions.
Oui, absolument. Regarde, je te dirais, Alexis, ça a commencé la discussion de mettre un prix sur le carbone, « putting a price on the carbon ». C'était la Banque mondiale en 2014. Alors, il existe plusieurs mécanismes pour mettre un prix sur le carbone. On peut utiliser des taxes carbone, des taxes qui permettent à un gouvernement de tarifier les émissions de GES. Donc, ici au Québec, quand on fait le plein à l'essence, on a une surprime qui est environ de 5 sous le litre, qui est reliée à la tarification carbone réglementée. Alors, le WCI, c'est dans un marché qui comporte le Québec et la Californie, dans lequel les deux gouvernements, dans un marché réglementé du carbone, vont faire des encans 4 fois par année pour vendre des droits d'émission. D'accord? Là, ici, on est dans les émissions de GES, les émissions tarifées. Donc, tu reviens à ton véhicule, il fait 5000 km, donc il émet des gaz à effet de serre et tu as une surtaxe, autrement dit, pour l'utilisation. Maintenant, dans les réductions de GES pour les crédits de carbone, dans les marchés volontaires réglementés, ici, on va récompenser les réductions, les efforts de réduction qui sont faits par le fait que tu fais du télétravail ou que tu utilises les transports en commun ou tu as changé ton véhicule pour un véhicule électrique au lieu d'être à l'essence.
Puis c'est comme en Colombie-Britannique, la taxe sur le carbone, c'est les espèces de profits qu'ils vont faire à la pompe justement de l'essence. Ces profits-là vont être redistribués à la communauté. Est-ce que je me trompe?
Bien, là, la taxe ici en Colombie-Britannique, c'est la province de la Colombie-Britannique qui a émis cette taxe-là en 2008. Et elle taxe les produits de consommation d'énergie fossile pour leur redistribuer l'argent par la suite, oui.
Est-ce que c'est un concept qui est utilisé ailleurs ou qui est de plus en plus populaire?
La taxe carbone s'est utilisée. Là, récemment, je pense qu'il y a des études au niveau mondial qui ont dit que c'était un très bel outil. Au Canada, on a une tarification carbone au niveau fédéral qui s'applique, qui est un peu le chapeau des 10 provinces dans lesquelles on laisse le choix, le fédéral laisse le choix à chacune des provinces d'implanter soit un marché du carbone, soit une taxation carbone comme la Colombie-Britannique. Ou si ce n'est pas appliqué, bien, le fédéral va appliquer une taxe fédérale, comme exemple en Ontario ou dans les provinces maritimes.
Puis, justement, quel est le rôle, c'est quoi l'importance de mettre un prix sur le carbone? Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral va vouloir venir un peu s'occuper des provinces qui ne veulent pas le faire?
Bien, enfin, c'est d'avoir un plancher minimum. Là, je pense qu'on rentre dans la discussion de responsabilité ou partage des responsabilités entre les provinces et le fédéral. Mais le fédéral est le pays qui représente le niveau fédéral et le niveau qui représente le Canada à la conférence des parties de l'accord de Paris. Et c'est son engagement du fédéral qui doit finalement revenir au Canada et s'ajuster avec chacune des provinces, leur laisser le choix d'appliquer le mécanisme de prix qu'ils vont mettre en place.
Puis, est-ce qu'une façon qu'on peut s'assurer qu'avec le marché du carbone, surtout le marché volontaire, on peut atteindre les objectifs climatiques fixés justement par l'accord de Paris?
Bien, je te dirais, au Canada, je pense qu'il faudrait être ambitieux des deux côtés, autrement dit, avoir le maximum d'obligations réglementaires, mais en même temps aussi laisser la flexibilité à des différentes parties intervenantes, que ce soit des citoyens qui veulent contribuer en compensant leurs émissions, des citoyens, des entreprises qui voudraient en faire plus que le contexte réglementaire dans son territoire, leur permettre de pouvoir stimuler ou récompenser ou contribuer eux-mêmes aux efforts de leur communauté. Les deux sont nécessaires, je pense, et les deux doivent être ambitieux, le réglementé et le volontaire.
Puis, ça me fait penser aussi justement au niveau international, il y a un organisme qui s'appelle le Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets, ou l'acronyme TSVCM, qui œuvre justement, qui ont un rôle clé dans l'instauration des prix, je crois, du carbone, corrige-moi si je me trompe, mais eux, dans le fond, je crois qu'ils s'assurent à ce que le marché du carbone volontaire puisse rencontrer les objectifs de l'accord de Paris.
Oui, effectivement, Alexis, c'est une mouvance qui est partie de New York, inspirée par M. Mark Carney, l'ancien président de la Banque du Canada et d'Angleterre, qui est émissaire spécial de la Convention des changements climatiques. Et l'intérêt de ce mouvement-là, c'est de créer un genre de consensus au niveau de l'utilisation, comment utiliser avec le maximum de rigueur les marchés volontaires du carbone de toute la planète pour pouvoir répondre à la demande de corporations qui de plus en plus veulent s'engager et le faire d'une manière structurée et rigoureuse. Donc, multiplier ce qui est transigé en ce moment, on parlait en 2019, 100 millions de crédits de carbone échangés dans les marchés volontaires pour éventuellement peut-être se rendre jusqu'à 2 milliards en 2030 et possiblement 5 à 10 milliards en 2050, qui serait une contribution supplémentaire à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris.
Puis ce serait une contribution vraiment non négligeable de ce que je peux comprendre. Puis le TSVCM, justement, disait que pour arriver à remplir la demande d'un marché volontaire fonctionnel plus efficace, le marché actuel volontaire va devoir grandir de 15 à 160 fois. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à assurer cette croissance, puis qu'est-ce que ça représente aussi en termes de croissance?
assurer cette croissance, ça voudra dire déjà, on voit dans les marchés volontaires une demande supplémentaire pour acheter des crédits de carbone et un manque pour les prochaines années. Donc, il va falloir générer de multitude d'autres projets de réduction de GES, de séquestration de GES, et on commence à parler ici de projets de captation en ingénierie de GES, qui veut dire qu'on serait capable d'avoir de la technologie qui va capter le CO2 déjà dans l'atmosphère pour le liquifier, l'enfouir dans des conditions géologiques appropriées pour des périodes qui peuvent atteindre 1000 années.
Wow!
Donc, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres projets, énormément. Alors, c'est stimulant pour la création de projets. Ça va permettre la participation d'innovations, non seulement technologiques, mais aussi de, moi j'appelle ça les modèles d'affaires, ou comment faire participer le maximum de personnes, de communautés, d'entreprises, de municipalités à des efforts de réduction et de séquestration.
Donc, ça va nous demander une certaine créativité puis beaucoup de recherche. Puis en achetant des crédits de carbone, on peut acheter des crédits qui, justement, vont promouvoir la recherche et le développement de ces technologies-là. Puis, on remarque, en fait, si j'ai fait des recherches, là, puis je pouvais acheter des crédits de carbone à 12 $ comme je pouvais en acheter à 125 $. Donc, il y a une super grosse hétérogénéité dans les prix. Puis, est-ce que je me demandais, dans le fond, si cette hétérogénéité-là dans les prix était un indicateur de la qualité du crédit qu'on achète puis de sa portée?
Écoute, c'est un indicateur. Dans les marchés volontaires du carbone, comme tu disais, il y a un écart de prix important. D'après mon point de vue, le prix va représenter le lieu de réalisation du projet, dans quel pays ça a été réalisé, quelles sont les conditions réglementaires sur l'environnement dans chacun de ces pays-là. D'un pays à l'autre, ce n'est pas les mêmes obligations réglementaires. La nature des projets, ça veut dire ici, on parle, est-ce que c'est un projet de réduction de gaz à effet de serre, c'est un projet de plantation, de conservation d'une forêt ou c'est un projet de captation de CO2. La nature du projet va rentrer en ligne de compte. L'impact aussi du projet sur les objectifs de développement durable des Nations unies va donner une valeur ajoutée. Et je pense ce qui est très important, c'est de pouvoir de démontrer ou de considérer la portion de la vente du crédit de carbone, du prix qui est utilisé, qui va être retourné directement au porteur de projet, à la réduction même de GES ou à la plantation même de la forêt.
Donc, si je comprends bien, acheter un crédit de carbone à 12 $, ça ne veut pas nécessairement dire que j'aurai la meilleure portée ou que mon argent va être le mieux investi, dans le fond, pour diminuer les gaz à effet de serre. Donc, je pourrais décider de compenser ou de participer à la réduction des gaz à effet de serre engendrés par ma voiture, par exemple, mais ça ne veut pas dire que je pourrais le faire à juste prix ou que le prix que je paye sera représentatif vraiment des conséquences émises par ces GES-là.
Bien, pour le niveau des conséquences, Alexis, on parle ici, quel est le coût marginal de la prochaine tonne d'émissions? C'est le carbon social cost qu'on appelle en anglais, alors qui peut varier entre 30 et 200 $ US la tonne d'émissions de GES. Donc, c'est sûr, c'est le prix que tu payes va être un indicateur de la qualité de ton impact, de ta compensation ou de ta contribution aux efforts climatiques.
Ouais, puis le coût social du carbone, en fait, c'est ça, c'est déterminé par plusieurs analyses, par plusieurs experts qui vont calculer c'est quoi la conséquence sur la qualité de l'air, sur les écosystèmes. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Puis, comme tu disais, ça varie entre 30 et 200 $. Puis, justement, il y a des crédits qu'on peut acheter à 12 $.
Oui. Donc,
c'est là qu'on espère avoir peut-être un prix plancher ou plus de réglementation face justement à ces prix-là pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre.
Tu as tout à fait raison. Et moi, d'après moi, l'acheteur qui veut contribuer aux efforts climatiques de sa communauté a tout intérêt à utiliser un prix qui se rapproche du coût social du carbone. Alors, voilà. Et déjà, il y a un signal de prix qui est important qui a été donné au Canada par le dernier gouvernement qui est maintenu. On parle de mettre un prix, une tarification sur les émissions de GES qui actuellement sont à 40 $ la tonne 40 $ canadiens la tonne d'émissions de GES, qui va être porté à 170 $ canadiens la tonne en 2030. Donc, on voit comme une pression, un signal de prix pour agir. Et ça, c'est le bâton, d'accord? Tandis que quand on est de l'autre côté, dans les monétisations des réductions, c'est la carotte, c'est pouvoir stimuler ou faire participer le maximum de gens récompensés pour les gestes positifs d'action climatique.
Puis, est-ce que le marché volontaire du carbone puis le marché réglementé s'entendent bien? Est-ce que leur coexistence en ce moment est harmonieuse?
Je te dirais, dans chacun des pays ou des juridictions, comme le Québec est une juridiction, c'est à déterminer. L'espace n'est pas clairement délimité et il y a beaucoup d'opportunités à collaborer ensemble dans les prochaines années, dans la prochaine décade, tout à fait.
Puis, dans le fond, le marché du carbone, il est inclus dans l'accord de Paris qui a été ratifié par 195 nations, si je ne me trompe pas. Puis, en fait, est-ce que le marché du carbone ne remonte pas à hier, dans le sens qu'avec le protocole de Kyoto, il y avait une espèce de marché du carbone, c'était un peu la naissance des réductions d'émissions d'effet de serre par la compensation. Mais je me demandais justement s'il y a eu une transformation des marchés du carbone entre le protocole de Kyoto en 1997, je crois, et l'accord de Paris maintenant.
Oui, tout à fait. On a eu une première génération, j'appelle, avec le protocole de Kyoto, d'obligations réglementaires par pays, donc d'engagement volontaire, alors pas contraignant. Et avec l'accord de Paris à partir de décembre 2015, alors là, les pays se sont engagés dans les actions, des contributions déterminées de chacun des pays qui est revisée tous les 5 ans. C'est ce qu'on va discuter là, à la conférence des parties à Glasgow au mois de novembre. D'accord? On demande aux pays d'être plus ambitieux dans leurs cibles de réduction.
Puis, en étant plus ambitieux dans les cibles de réduction, on va incorporer davantage le marché du carbone, si je ne me trompe pas.
Oui, le marché du carbone est un mécanisme. Alors, n'est pas le seul mécanisme. Comme mécanisme, on peut avoir, comme on a parlé tantôt, des taxes carbone. Donc, on tarifie les émissions de GES. On peut utiliser des marchés réglementés, donc dans lequel un gouvernement va fixer les règles du jeu de l'offre et la demande, comme on a ici au Québec, en Californie et en Europe pour 11 000 entreprises. Et par-dessus cette intervention du gouvernement, tarification réglementée ou marché réglementé, il y a des marchés volontaires qui peuvent contribuer et qui contribueront aussi à l'atteinte des cibles de réduction.
Donc, de ce que je comprends, c'est que ce ne serait pas vrai de dire que les contributions volontaires de monsieur, madame, tout le monde n'ont pas leur portée dans la réduction puis dans la mitigation des conséquences des changements climatiques. En fait, ce serait super important. Puis, tout l'argent qu'on investit des consommatrices, consommateurs servirait vraiment à venir propulser les réductions puis de... Ils auraient vraiment leur place dans la lutte au changement climatique. Mais en tant que consommatrice, consommateur, comment est-ce que je peux m'assurer que le crédit de carbone que j'achète de façon volontaire soit de qualité puis qui ait une portée qui est pour moi importante?
Bien, je te dirais, comme consommateur, la première chose, je pense, qu'il y a toujours à faire, c'est tu as l'obligation de mesurer ton empreinte carbone, donc de calculer tes émissions sur ta consommation annuelle. Après ça, Marie, tu peux mettre en place toi-même des mesures de réduction. Je vais faire plus de transport en commun, je vais couper ma diète de viande pour aller plus vers des protéines végétales, etc. C'est toutes des mesures intéressantes. Et le résiduel, on appelle ça les gaz à effet de serre incompressibles. Alors là, tu peux contribuer d'une manière supplémentaire en supportant d'autres projets dans ta communauté, que ça va être des projets de plantation d'arbres ou de projets de réduction, et si possible, des projets communautaires pour créer un cercle vertueux d'engagement et d'action climatique.
Donc, de ce que je comprends, en fait, c'est vraiment facile d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On le fait toutes et tous quotidiennement, qu'on le veuille ou non. Là, notre société est un peu basée sur l'utilisation et l'extraction des énergies fossiles. Mais c'est où c'est un peu plus compliqué, c'est vraiment dans la captation, dans la compensation, souvent dans la réduction à la source aussi. Donc, les marchés du carbone volontaire vont vraiment venir pouvoir, ils vont vraiment pouvoir soutenir les réductions incompressibles, comme tu as dit. Mais c'est juste que c'est vraiment une autre paire de manches, puis c'est un peu, que je comprends, difficile de mettre en place de façon harmonieuse et que tout le monde s'entende sur le principe. Puis, on dirait que ça me fait réfléchir par rapport à l'atteinte des cibles climatiques. Tu sais, ça dépend vraiment de projets qui vont être ambitieux, qui vont être de qualité, puis qui vont être ingénieux aussi. Donc, est-ce qu'avec des produits, des crédits de carbone de mauvaise qualité, on va pouvoir vraiment atteindre les objectifs climatiques puis pouvoir mitiger de façon efficace les conséquences des changements climatiques, tant sur les écosystèmes que sur la santé humaine?
Bien, la pression pour produire des crédits de carbone dans les marchés volontaires va inciter, comme tu disais, créer l'innovation, être de plus en plus ingénieux dans les projets qui vont être mis en place, mais aussi faire participer le maximum des parties prenantes, que ce soit des citoyens, des municipalités, pas seulement les grandes villes, les petites villes aussi, les compagnies, le système financier, tout, faire participer toutes ces parties prenantes-là, au-delà de leurs obligations réglementaires. Moi, je pense que ça va être un élément qui va rajouter sur l'obligation réglementaire. D'accord? Donc, on a besoin des deux. On a besoin d'un coup de bâton, alors de la réglementation, des obligations, mais aussi une récompense à l'action positive. D'accord? Les deux ensemble ont leur place. En même temps, ambitieux des deux côtés.
C'est vraiment comme un appel à l'action de façon communautaire, puis c'est ce qu'on peut en fait retrouver, là. C'est ce que je trouve quand même assez génial de ces initiatives-là, c'est que monsieur et madame tout le monde ont tous leur place à jouer dans la crise climatique, puis c'est pas vrai que de seulement changer ses habitudes, moi, Alexis, ben ça va rien faire, là. C'est vraiment important qu'on aille toutes et tous dans le même sens, puis de lutter contre les changements climatiques. Puis le marché volontaire du carbone, c'est dans le fond une vraiment belle façon de le faire pour justement diminuer ce qui est incompressible, puis diminuer nos actions personnelles.
Oui, changer nos comportements en utilisant la technologie ou des choix, comme exemple, si tu as le choix de faire du télétravail, c'est un choix conscient de technologie ou de comportement qui amène moins d'émissions. Je pense que c'est le but, là, c'est de faire prendre conscience de l'urgence. Je pense que le dernier rapport du GIEC qui datait de août 2021 nous disait qu'on était minuit moins un. Alors, je pense qu'on a beaucoup à pédaler. Il y a beaucoup à faire, mais en même temps, c'est stimulant de voir l'opportunité de pouvoir utiliser cette contribution-là volontaire, ceux et celles, autant les individus que les corporations qui veulent en faire plus que leurs obligations, sont les bienvenus.
Oui, je pense que on l'a vu avec dans la dernière année, les contributions des contributions volontaires n'ont jamais été aussi grandes avec le marché du carbone volontaire. Puis justement, ça montre qu'on est dans la bonne direction. Puis ça montre que les gens sont prêts à mettre l'effort supplémentaire, justement.
Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Alexis.
Ben merci pour cette discussion, Martin.
C'est un plaisir, Alexis. À la prochaine.
À la prochaine, salut. Si vous appréciez notre série, je vous invite à vous rendre sur notre site web au www.solutionwheel.com où vous trouverez une mine d'or d'informations sur les thèmes abordés dans cet épisode. À la prochaine!